pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, cette campagne présidentielle ressemble à un spectacle de fin d'année scolaire, d'hommage pour un pays qui affiche à son panthéon pléthore de grands écrivains, la photo média qui joue sur les petites phrases aux candidats qui semblent adorer remettre une pièce pour que le manège ne cesse de tourner. Le résultat manque de panache et surtout, l'essentiel semble s'être enfui ailleurs.
C'est pas du vent sur RFI.
Cette campagne électorale est vraiment désolante, hein, totalement désolante. L'écologie dont on parle dans les programmes politiques, dans certains programmes politiques de certains candidats, et à mon sens, il est même abusif de parler d'écologie, parce que tout ça se déroule à l'échelle de la France, dans les frontières administratives et politiques de la France. Et n'importe qui connaissant un petit peu le domaine de l'écologie scientifique sait très bien que ça n'a pas de sens. De parler d'écologie dans les frontières strictes de la France, c'est une ineptie.
Et voilà ce que nous disait il y a quelques semaines à ce même micro le journaliste Fabrice Nicolino, auteur d'un livre au titre sans doute désuet, « Ce qui compte vraiment », publié aux éditions Les Liens qui libèrent. Et c'est justement pour tenter de redonner du sens à cette campagne présidentielle que nos invités ont tous signé l'appel des solidarités, un appel lancé par désormais plus de 130 associations à celles et à ceux qui ont l'impression que quelque chose ne tourne pas rond. Bonjour Nicolas Hulot.
Bonjour.
Après le pacte écologique que vous aviez fait signer aux candidats de l'élection présidentielle en 2007, après 2012 où vous vous étiez présenté, votre engagement dans cette campagne, c'est cet appel.
Oui, c'est une partie de notre engagement. Ça ne nous empêche pas de discuter avec certains candidats. Chacun le fait à sa manière pour essayer de nourrir un tout petit peu les programmes. La démarche que nous avons engagée, c'est une démarche qui se veut au long cours. On sent bien dans nos engagements les uns et les autres que... On a un peu atteint notre limite d'efficacité. On est engagés tous depuis de nombreuses années et on ne voit pas franchement les choses s'améliorer. Donc il va falloir qu'on passe quand même à une vitesse à une échelle supérieure. Comme ça ne se fait pas spontanément dans le spectre politique, peut-être qu'il faut qu'on invente quelque chose. C'est à l'image des structures qui travaillent dans des solidarités très diverses. Me semble être de bon augure pour être dans le débat public, au-delà de la campagne présidentielle et même législative, je l'espère durablement, une force de rappel, une force d'exigence, une force suprapolitique et aussi une force de prescription. Il faut qu'on invente quelque chose parce que on voit bien que, même si nos actions sont utiles, et notamment toutes celles et ceux qui sont autour de cette table et qui nous ont rejoints dans l'appel de solidarité, soulagent évidemment des exclusions, des discriminations au quotidien, mais elles le font par défaut. Elles le font par défaut parce que parfois, cette action humanitaire, elle est un peu le masque de l'inaction publique. Et puis, en même temps, ces inégalités, ces exclusions, elles sont aussi le fruit d'un modèle qu'on ne remet pas en cause. C'est bien ce modèle qui crée des inégalités. Et donc, ce qui est terrible d'ailleurs, et pour faire très court, dans cette campagne, c'est que cette campagne ressemble tragiquement aux autres campagnes. Je ne dis pas que tout est à jeter, mais normalement, ce devrait être un moment où on redéfinit collectivement une vision... un cap, une direction, voilà, où la France se dit quel rôle on veut jouer dans ces enjeux universels, qu'est-ce qui participe et qu'est-ce qui appartient véritablement au progrès.
Pourquoi maintenant, plus qu'avant ?
Vous voyez bien quand même qu'il y a une complicité tacite entre une gourmandise médiatique et le spectacle de la politique. C'est un peu une forme de télé-réalité, d'ailleurs avec un scénario absolument incroyable pour cette édition. Mais du coup, on cède à une forme de voyeurisme sur ce jeu de rôle, sur ce théâtre des apparences, au détriment du fond. Et même si parfois dans les programmes des candidats, il y a peut-être des choses, et même sûrement des choses pertinentes, on ne le reçoit plus. Donc là, on se focalise sur des candidats ou des candidates. Et ce qu'on essaie de faire tous ensemble, c'est avant de se diviser pour dire pour qui on va voter, ça serait quand même peut-être pas mal qu'on se rassemble pour dire pourquoi on veut voter. Qu'est-ce qu'on veut faire de notre argent? Qu'est-ce qu'on veut faire du génie humain? Qu'est-ce qu'on veut faire de notre démocratie? Se reposer ça et avoir, encore une fois, une radicalité dans l'exigence. Parce que c'est plus une variable d'ajustement à la solidarité. Ça doit devenir, je dirais, l'ADN de notre démocratie.
500 propositions. Frédéric Amiel, vous êtes chargé du plaidoyer chez Emmaüs. Emmaüs a été, avec la Fondation Nicolas Hulot, à la base de cet appel. Et c'est vrai qu'il y a urgence, parce que quand on voit à quoi ressemble cette campagne, on a envie d'un sursaut citoyen, on a envie d'entendre des propositions concrètes, parce que la situation se dégrade, en France notamment.
Oui, la situation se dégrade de manière continue depuis 10 ans, quoi qu'on en dise, c'est-à-dire que on a des chiffres qui masquent une réalité, qui est une précarisation importante de la société, des personnes qui aujourd'hui alternent des périodes de chômage et des périodes d'emploi sans réussir à s'en sortir sur le long terme, des logements qui continuent de se dégrader parce qu'ils sont pas suffisamment rénovés. Et face à cette situation, on le sentait venir depuis déjà presque un an. On a une campagne présidentielle qui, comme disait Nicolas à l'instant, ne porte pas de projet, ne propose pas de
fonds. En tout cas, on ne les entend pas.
En tout cas, on ne les entend pas. Mmh. Et ce qui nous désole, c'est que ça fait des années que les associations de l'appel, mais toutes les associations françaises, portent des propositions concrètes, font un travail de fond, un travail qu'on a l'impression parfois que les partis politiques ne font plus. Ils ne sont plus créateurs d'innovations, créateurs d'idées nouvelles. Ces idées nouvelles, elles existent. On a voulu les rassembler et montrer qu'en rassemblant les propositions de plus de 140 associations aujourd'hui, on arrivait à constituer presque un programme qui a la solidarité pour cap et qui aujourd'hui nous propose de construire un pays ensemble et pas nous enfermer dans l'individualisme.
140 associations, vous en avez rajouté 10 de plus que moi, c'est vrai que ça commence à faire du monde. Véronique Andrieux, bonjour. Vous êtes directrice générale de Action contre la faim. Pourquoi avez-vous signé cet appel ?
Alors cet appel, nous avons répondu présent. C'est un appel qui nous parle, c'est un appel qui remet les valeurs au cœur du débat, au cœur de ce que nous voulons que la société, les hommes politiques, les décisionnaires portent. Et le valeur de la solidarité internationale, la solidarité avec tous les peuples, c'est ce pourquoi nous nous battons. C'est au cœur du grand combat contre la faim que nous portons depuis presque 40 ans.
Et en ce moment, il y en a bien besoin. On va en parler dans un instant. Émilie Johan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice du plaidoyer international du Secours catholique. Vous aussi, vous avez, j'ai envie de dire, évidemment, signé cet appel.
Oui, nous aussi, on a répondu présent parce qu'effectivement, pourquoi maintenant, vous posez la question, pourquoi maintenant ? Parce que nous, on voit au quotidien, avec nos 70 000 bénévoles sur le terrain, nos partenaires internationaux, qu'il y a un écart entre ce qu'on vit, ce que les gens font, les élans de solidarité, les initiatives nationales, internationales de solidarité à l'égard de leurs prochains, à l'égard des migrants, des sans-abri, des personnes en situation précaire. Et on n'entend pas ça dans ce fameux discours électoral, présidentiel, législatif. Donc nous, on veut vraiment remettre ça au cœur avec nos collègues au sein de l'appel des solidarités.
Alors la bonne nouvelle, on ne pouvait pas avoir évidemment 140 associations dans ce studio, mais c'est que ces 140 associations, elles sont des hommes et des femmes derrière, sont des millions de Français, Nicolas Hulot. Finalement, c'est le premier parti politique de France, la solidarité.
Non, mais la bonne nouvelle, et ça vaut pour chacun d'entre nous, c'est que de temps en temps, on serait tenté, dans l'accumulation de crises ou dans quelques expressions ingrates de quelques-uns, que l'humanité ressemble à ça. En réalité, il y a une humanité, et y compris dans notre territoire, par définition, qui est discrète. Les gens d'Action contre la faim, les gens de chez Emmaüs, ils ne cherchent pas des médailles. Ils ne sont pas en quête de reconnaissance. Ils sont là pour soulager au quotidien. Ils y trouvent peut-être d'ailleurs une forme de rémunération dans un sourire que vous pouvez provoquer, bien entendu, ou dans un soulagement dont vous êtes l'auteur, et ça leur suffit. Mais résultat, on ne les voit pas. Et c'est bien aussi qu'on sache qu'il y a probablement une société dans sa diversité qui est majoritaire et qui est là justement pour remplacer le pouvoir public qui n'est pas forcément à la hauteur. Et donc ça redonne confiance et il faut s'inspirer de cela. Et comme on vient de le dire aussi, ce qui est très important, c'est que c'est pas simplement une interpellation démagogique des hommes ou des femmes politiques. C'est une offre qu'on leur fait. On leur tend la main. Il y a un cadre référentiel de 500 propositions, des propositions parfois qui peuvent être mises en application à l'échelle locale immédiatement et des propositions parfois beaucoup plus macro, y compris dans le domaine de l'emploi, qui leur donnent une extraordinaire opportunité de régénérer leur logiciel. Et là, c'est pour ça qu'on ne les a pas directement interpellés, parce qu'on fait appel à leur intelligence. J'espère qu'ils vont écouter et se nourrir. Voilà, se nourrir de ces prescripteurs. Vous savez, on parle aujourd'hui de la réalité augmentée. Ben, nous, on veut augmenter leur réalité. Parce que ce sont des acteurs de terrain qui se sont réunis dans cet appel de solidarité. Ils ne connaissent pas d'une manière statistique ou bureaucratique les exclusions et les discriminations et les plaies des invisibles. Et donc, cette connexion, elle est importante. On a besoin de leur expérience politique, mais ils ont vraiment besoin de cette expérience de terrain.
C'est pas du vent.
On a tous un grand cheminement à faire dans nos vies et on est en train d'inventer les uns et les autres le monde de demain.
Le magazine de l'environnement sur RFI.
Il n'y a rien de plus beau que d'aider l'humanité dans sa progression. Ça donne sens à notre vie, tout ça.
Nous sommes là devant un problème qui est tragique parce que, Dieu merci, la France n'est pas à majorité de miséreux. Et la majorité qui n'est pas miséreuse ne considère pas comme prioritaire le secours à la misère des autres. Si c'était, je le dis tragiquement, si c'était demain la guerre, la vilaine guerre où le sang coule, on trouverait dans la journée les finances pour pouvoir faire face à toutes les dépenses extraordinaires que cela entraînerait immédiatement. Est-ce que pour la guerre contre la misère, on n'est pas capable? Mais on me dit, mais mon père, si quand c'est la vilaine guerre où le sang coule, le peuple tout entier accepte des sacrifices, c'est que les fils des riches sont mobilisés en même temps que les fils de pauvres. Alors que quand c'est la guerre contre la misère et non pas contre l'ennemi à la frontière, les fils de gens à l'aise, n'étant pas concernés, ils laissent pourrir des problèmes. Ça finit inévitablement par les extrêmes. On m'a dit il y a quelques jours, et je ne le savais pas, on m'a dit, mais actuellement, quand on se promène dans les quartiers pauvres, les quartiers miséreux, on voit des gens qui sont pour M. Le Pen, parce qu'il considère que lui, avec ses grands coups de gueule, leur donne l'espoir qu'il y aura de l'énergie pour apporter des solutions à leur détresse. Les modérés, comme on dit, qui sont la grande majorité des Français, qu'ils prennent garde. C'est par la négligence devant des problèmes comme ceux-là que finalement, une nation tout entière pourrit.
Et c'était le 9 juin 1990, déjà l'abbé Pierre, fondateur du mouvement Emmaüs, nous alertait des risques démocratiques de ne pas se préoccuper de la misère. 27 ans plus tard, Frédéric Amiel, la situation s'est largement dégradée sur le terrain et ses propos font évidemment écho à la situation politique que l'on connaît aujourd'hui et que l'on voit poindre dans cette campagne.
Oui, tout à fait. C'est cette belle colère de l'abbé Pierre qu'on vient d'entendre. Elle serait d'actualité aujourd'hui. D'ailleurs, on commémore cette année les 10 ans du décès de l'abbé Pierre. Et on a justement commencé cette année en voulant dire l'abbé Pierre n'est plus là, mais ses héritiers sont des milliers aujourd'hui, des millions en France, acteurs discrets, patapageurs. Et on a réuni un certain nombre d'acteurs associatifs, déjà le 22 janvier, pour les 10 ans du décès de l'abbé Pierre, pour un meeting de la société civile, pour montrer qu'il y avait des choses à dire et qu'effectivement, il y avait des choses à changer et que ces choses commencent à se construire sur le terrain, au quotidien. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont peur en France et on peut comprendre, y compris des gens qui vivent pas aujourd'hui dans des situations trop difficiles, mais qui ont peur que ça se dégrade demain. Et à ces gens qui ont peur, un certain nombre de responsables politiques leur disent « Regardez, regardez les plus pauvres, regardez ceux qui reçoivent 400 euros d'aide par mois, regardez ceux qui sont logés à quatre dans une cabane en bois. » Ils leur disent que c'est à cause de ces personnes, à cause du peu d'efforts qu'on fait pour ces personnes, que eux risquent demain de se retrouver dans la misère. Ça, c'est inadmissible. On continue à l'entendre aujourd'hui. C'est un discours qui continue à être porté et qui doit être combattu vigoureusement parce que la majorité, la très grande majorité des Français, elle veut pas du repli individualiste. Elle a envie d'avoir des responsables politiques qui pointent les vrais responsables et qui proposent des vraies solutions et qui cherchent pas constamment des boucs émissaires.
9 millions de pauvres, 140 000 personnes à la rue, c'est ça la France aujourd'hui ?
C'est la France aujourd'hui, c'était aussi la France hier. C'est une vraie question pour Emmaüs qui depuis 60 ans se bat contre la pauvreté. Pourquoi, malgré tous les efforts, non seulement d'Emmaüs, mais aussi des autres associations, il y a encore autant de pauvres en France? Et une des réponses, on a publié un livre il y a un mois qui en parle, c'est que cette pauvreté, elle a changé. On n'a plus les mêmes pauvres, on a une pauvreté qui s'est rajeunie. La moitié des personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté ont moins de 30 ans aujourd'hui en France. Et on a une pauvreté qui a changé de nature. C'est-à-dire qu'avant, on avait cette pauvreté marginale qui concernait une infime minorité de la population qui n'arrivait pas à en sortir. Et aujourd'hui, on a une pauvreté en pointillés. et du coup une peur, une insécurité, une angoisse. Et c'est de cette angoisse dont on doit se débarrasser en redonnant aux gens la confiance, en redonnant aux gens de la sécurité, et c'est par plus de solidarité qu'on pourra y parvenir.
Alors l'idée de cet appel des solidarités, je crois que c'était une de vos formules, Nicolas Hulot, c'était de dire que c'était justement pour que les gens votent avec leur cœur et pas avec leur peur.
On sait bien que la peur est mauvaise conseillère. Comme on vient de le dire, on ne dénigre pas les gens qui ont peur, parce que d'ailleurs, le contexte mondial, il fait un peu peur, c'est moins qu'on puisse dire. On sent bien qu'il y a des choses qui sont en train de se déliter, et on a peur qu'à un moment ou à un autre, les choses nous échappent totalement. Mais ce qui fait que les gens ont peur, que les gens aussi sont en colère, et que parfois cette colère, effectivement, les guide vers un repli sur soi, ou par des votes qui ne sont pas forcément les plus raisonnables, ce qui est encore une fois compréhensible, c'est que vous savez, l'exclusion, c'est une forme de violence. Dans un monde justement où chacun est capable de mesurer, parce que maintenant ce monde est connecté, si sa condition est la même que quelqu'un d'autre, vous ajoutez à l'exclusion quelque chose qui est terrible, qui est une forme de violence, qui est l'humiliation. Voilà. Et donc c'est ça qui crée aussi quelqu'un qui se rend compte que les gouvernements passent et qu'il a toujours aussi peu de considération, puis surtout que maintenant chacun est en mesure quand même de voir qu'on est dans un monde où on produit de plus en plus de richesses. Il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont, qui sont partagées dans de moins en moins de mains. Et ça, c'est une inégalité profonde. Et tant qu'on s'accommode dessus, il n'y a pas besoin simplement d'être Jean-Luc Mélenchon pour s'en affecter. Oui. N'importe quel homme politique ou femme politique devrait s'en indigner.
Oui, lui, multimilliardaire, possède l'équivalent de la moitié de l'humanité.
Oui, mais je peux. Et 1% concentre 93% des richesses. Et le CAC 40, c'est distribué en dividendes 60 milliards d'euros il y a deux ans, ce qui représente l'équivalent de notre déficit budgétaire. Tant qu'on est faible, tant qu'on est complaisant avec ça, quel que soit, encore une fois, votre positionnement politique, on entretiendra une forme de mystification sur la volonté et notre capacité à faire en sorte que la solidarité change d'échelle. Donc c'est là-dessus qu'on doit se retrouver, mettre fin à l'optimisation fiscale, parce que là aussi, l'évasion fiscale, si demain, si on veut reconstruire une Europe, on veut redonner une fierté européenne, si à 28, on dit allez, terminer, les mêmes règles fiscales pour tout le monde, et on va faire rentrer vraiment dans le périmètre de la solidarité, cet argent qui s'est organisé en toute légalité, mais en toute immoralité pour échapper à la solidarité, croyez-moi, on va changer d'échelle, parce que là, jusqu'à présent, le Nord est condamné à une forme d'austérité, et le Sud est condamné à une forme de misère. Mais parce que, encore une fois, on s'accommode du fait qu'il y a un pan entier de l'économie qui court-circuite les États.
Oui, parce qu'Émilie Joanne, évidemment, la solidarité, ce n'est pas uniquement à l'échelle franco-française, même si dans cette campagne, on a cette impression.
Oui, on a beaucoup l'impression que c'est franco-français, alors que nous, notre message, c'est aussi de dire la solidarité internationale, elle est au cœur de notre vie. C'est comment on consomme, comment on se déplace, quelle politique climatique on met en œuvre, quelle politique fiscale. Donc il s'agit vraiment pour nous de mettre la solidarité internationale au cœur du projet présidentiel, et c'est là-dessus qu'on a interpellé aussi les candidats.
Et ça permet justement de repositionner aussi les débats, notamment sur les migrations.
Exactement, les migrations, c'est un des sujets sur lesquels il n'y a évidemment pas de frontières. Et aujourd'hui, même si on veut absolument les fermer, c'est de se dire qu'on ne peut plus penser la France, l'Europe comme un îlot. Il faut savoir avoir des politiques globales et penser se vivre ensemble à l'échelle d'un pays, d'une communauté, mais aussi d'un monde globalisé.
Fermer les frontières, c'est fermer les yeux. Et ça n'a jamais empêché de s'en prendre une en pleine figure. Et la solidarité, c'est une loi universelle. Donc elle n'a pas de frontières. Et c'est cette règle-là qu'on veut faire appliquer.
Véronique Andrieux.
Alors pour nous, la solidarité, ce n'est pas un mot creux ou abstrait. C'est un mot qui est rempli de contenu et qu'on pratique au quotidien. Et évidemment, avec les communautés, les populations hôtes. On parlait tout à l'heure d'une dimension très franco-française. Effectivement, comment aller au-delà de ça? Il y a des problématiques auxquelles on fait face aujourd'hui qui ne peuvent se résoudre que dans la collectivité et le multilatéralisme. Par exemple, la résolution des conflits, des solutions politiques négociées, la question des violations au droit international humanitaire, de l'accès humanitaire, pour que les populations en souffrance puissent avoir accès à l'assistance humanitaire, ou encore la crise des réfugiés, la lutte contre la pauvreté. Tout ça ne peut pas se concevoir à partir d'un repli sur soi. C'est obligatoirement une action collective qui va le permettre.
140 associations ont signé cet appel des solidarités. 12 millions de Français sont engagés dans des associations ou des ONG. C'est donc le premier parti politique de France qui a bien du mal à se faire entendre. Pourtant, il y a urgence, comme nous vous le démontrerons dans la deuxième partie de l'émission. Restez avec nous, on se retrouve juste après le flash d'info. À tout de suite.